l'économie.
Au sommaire, certains graisseurs artisanaux d'or en phase de signer un contrat de sous-traitance avec la compagnie Mongol Gold Mining dans sa concession. C'est là leur permettra de vendre des minerais exploités en dehors du site d'exploitation industrielle. Et puis la route Kongolo-Kalemie dans le Tanganyika se dégrade de plus en plus. Conséquence, les produits de première nécessité sont devenus rares. Dans ce magazine, nous reviendrons aussi sur la clôture hier de la conférence internationale sur l'investissement privé dans le Grand Lac. Bienvenue à tous. Près de 90 000 créateurs artisanaux d'or sont désormais regroupés dans une dizaine de coopératives minières dans le territoire de Djougou. Certains d'entre eux sont en phase de finaliser leur dossier pour signer un contrat de sous-traitance avec la compagnie Mongolou Gold Mining dans sa concession à Mongolou. Elles pourront lui vendre des minerais exploités en dehors de sites d'exploitation industrielle. C'est un consultant de l'USAID qui mène des études pour le compte de cette compagnie qu'il a relevé mercredi dernier à Radio Kapi à l'issue d'un entretien avec les orpailleurs à Mongolou. Grégory Ntembo l'a dit à Delvin Waïsala.
Avec MGM. Mais la chose que je connais, ils ont dit qu'ils veulent faire le travail industriel dans leur zone d'exclusion. Ils ont déjà chassé des gens de leur zone d'exclusion. Mais ils ont aussi accepté qu'ils doivent travailler avec les orpailleurs parce que les efforts de AGK à rejeter les orpailleurs n'ont pas réussi. Donc ils ont vu qu'ils doivent faire le deux. Ils doivent faire la production industrielle et ils doivent acheter les minerais des artisanaux. Mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas acheter ça dans une manière d'un comptoir, ils veulent faire ça dans une manière dans une société industrielle. C'est comme on dit, ils donnent la sous-traitance aux gens à amener les minerais. Ils mélangent tous les minerais avec leur production industrielle et mettent ça dans leur usine. Il y a deux stratégies, on espère, qui sont complémentaires. C'est ça l'espérance.
Et puis ensuite, qui vous, la société Bandro Mining, s'est dit prête à laisser les créateurs artisanaux continuer leurs activités d'exploitation dans les périmètres de sa propriété située dans les chefferies de Luindi et Basile, en territoire de Mwinga. C'est ce qu'affirme un représentant de cette société dans une interview exclusive à Radio Okapi. Cette réaction intervient après une manifestation organisée mardi à Mwinga Centre par les créateurs artisanaux regroupés au sein de la coopérative minière de Mwinga Komim. Ce dernier exprimait ainsi leur indignation face à la société Bandro accusée d'être à la base du blocage de leurs activités minières dans la périphérie de Mongolou Centre. Au micro de Michel Chimwami, Maître Crispin Moutouedou, directeur en charge des relations avec les parties prenantes au sein de la société Bandro Mining, évoque les sentiments d'humanité de la part de la société pour la survie des créateurs artisanaux.
Mwinga, c'est une entité où nous avons, comme je l'ai dit, le gros de nos périmètres. Et nous devons tirer attention à tout ce qui se passe sur le plan de service humain. Parce que nous sommes une société respectueuse des droits humains. Nous savons que les communautés là-bas vivent aussi, entre autres, n'est-ce pas, de fruits de l'artisanat minier. Quand bien même dans notre concession, nous y avons déjà réfléchi. C'est pour cette raison que je dis qu'ils doivent s'apaiser, d'autant plus que dans notre logique de voir les choses, on doit tenir compte de tous ces aspects de la survie de ces gens-là. Essayer un peu d'être flexible, cela veut dire quoi? Mettre à la disposition de ces communautés, n'est-ce pas, une portion du carré minier au sein de nos périmètres. Et il y a un calendrier qu'on doit discuter avec le gouvernement provincial en urgence pour apaiser les uns les autres. Et d'autant plus que nous, on ne voudrait pas paraître comme une société sorcière, comme on semble nous taxer, mais une société de bienfaisance et qui tient aux droits humains et à la survie des hommes. Parce que c'est avec les hommes que nous devons cohabiter pour la paix.
Je le disais également au sommaire. Dans la province du Tanganyika, le chef de la chefferie, Bena Nyembo, lance un SOS. La route Kongolo-Kalemie ne cesse de se dégrader sur les tronçons qui traversent son entité. Les grosses pluies qui tombent ce dernier jour ont rendu les tronçons impraticables. Conséquence, les produits de première nécessité sont devenus rares. Le chef de chefferie en appelle au gouvernement provincial pour la réhabilitation de cette route. Reportage signé Expedi Mwambamobi.
Le tronçon routier Kalemie-Kongolo permet d'évacuer des marchandises dans les deux sens et même au-delà, jusque dans les provinces du Kasaï et du Maniema. À une soixantaine de kilomètres de Kongolo, vers la localité de Mbulula, plusieurs bourbiers se sont formés, rendant difficile le transport des biens et des personnes. Le chef de chefferie Bena Nyembo parle d'une situation qui pourrait asphyxier l'économie locale. Jules Kitungwa en appelle au gouvernement provincial. À Kibeya, localité située à 12 km de mon fief, C'est là que se trouve le plus grand trou sur la route. Une source a même jailli à cet endroit. Les véhicules ne savent plus passer, surtout lorsqu'il pleut. Sur le même tronçon, le pont Louvitouka est menacé d'effondrement. Déjà, il penche sur un côté. Moi, je demande au gouvernement provincial de disponibiliser des engins pour réhabiliter la route. En tout cas, si le gouvernement ne réagit pas rapidement, nous serons en grande difficulté, car nous commençons à souffrir de la pénurie des produits de première nécessité, tels que la farine de froment, la soude caustique pour la fabrication de savon, le sel. Tous nos efforts pour joindre les autorités politico-administratives n'ont pas abouti. Kalemi, expédie-moi Bamobi pour Écho d'économie.
Écho d'économie.
Prenons cette autre information pour terminer. La conférence internationale sur l'investissement du secteur privé dans les Grands Lacs s'est clôturée hier sur une note de satisfaction de ses organisateurs. Le professeur Tumbaloaba, secrétaire exécutif de la CIRGL et Saïd Djini, envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région de Grand Lac, ont bouclé les assises par une conférence de presse. Ces derniers estiment que l'intégration de l'Afrique de Grand Lac doit nécessairement passer par la normalisation. C'est Djinit au micro de Daniel Temizoni.
On ne peut pas faire une intégration sans une certaine normalisation. Évidemment, nous, en tant que Nations Unies, nous soutenons fortement les efforts de la CIRGL et des autres organisations de la sous-région. J'ai appris aujourd'hui que trois pays comme le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont fait des efforts en termes de circulation des personnes. Nous voulons que ce soit élargi à tout l'espace CIRGL. Nous allons soutenir tout effort de la CIRGL et des autres organisations régionales pour introduire des normes pour faciliter l'intégration. S'agissant de la question aussi pertinente de la double appartenance, de la triple appartenance, vous savez, vous ne pouvez pas éviter ça. Même dans la famille, vous ne pouvez pas éviter ça. Vous avez des cousins, vous avez des frères, vous avez des enfants. C'est ça de l'esprit de famille. Et la région du Grand Lac est une famille. Il y en a qui sont membres de l'East African Community, de la CIGLR, et le professeur Louaba a dit que ça s'imbrique. Nous avons, je crois, la fin de l'année, tenu une réunion que j'ai convoquée en tant qu'envoyé spécial avec la CIRGL, la SADEC, le BIGAD, la COMESA, justement pour, et nous sommes mis d'accord pour nous réunir régulièrement pour rationaliser et intégrer nos programmes pour éviter des doubles emplois. Moi, je voudrais en conclusion vous remercier pour votre intérêt à cette conférence. Je vais vous dire très simplement et sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'organisateur avec la CIRGL, nous avons été très impressionnés par le niveau de participation. Nous n'attendions pas autant d'intérêt, aussi bien du secteur privé, congolais, régional, africain et international. Nous avons eu des secteurs privés américains, européens, indiens, arabes et autres, canadiens et de tous les pays. Nous avons eu des hommes d'affaires d'Afrique, de la région. Vous avez des gouvernements de toute la région, des partenaires, des experts indépendants. Je crois que ça a été un moment formidable. Et vraiment, la conférence a été un succès. Nous avons eu une ouverture où nous avons eu plus de 1000 personnes à l'ouverture solennelle au niveau de la cité de l'OUA. Et pendant tout le long de la conférence, nous avons eu des difficultés à trouver des salles suffisamment grandes pour accueillir les ateliers. Et nous avons eu un atelier sur les mines qui n'a pas pu finir ses travaux parce qu'ils étaient passionnants sur les mines. Vous imaginez les mines en RPC dans la région. Donc ils étaient passionnés. Ils ont même sauté leur repas pour continuer leur débat. Nous avons eu une participation de plus de 400 et 500 personnes à tout moment. Donc c'était un peu le niveau de participation entre 400 et 500. Donc 400 aujourd'hui, nous avons moins 400 ici. Et nous avons eu 500 au moment où tout le monde était là parce que beaucoup sont partis hier. Donc nous avons eu une bonne participation, une bonne qualité de discussion, un intérêt formidable. C'est une conférence qui a été couronnée de succès et en tant que co-organisateur, nous sommes très très réjouis de ce résultat.
Et cette satisfaction est aussi celle de Madame Espérance Nzouzi, femme paysanne pratiquant l'agriculture dans le Mayombe au Congo central. Je préfère aussi vous laisser l'écouter au micro de Daniel Temizoni.
Et je suis dans l'agriculture, j'ai fait l'agriculture, je suis femme paysanne.
En RDC?
Oui, je suis femme paysanne dans la province du Congo central. Plus précisément, ma base c'est Lukula, dans les fins fonds du Mayombe.
Il y a près de 2 jours passés à Kinshasa dans cette conférence. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux activités que vous menez?
Je suis dans la grande joie de remercier d'abord le Seigneur, comme je l'ai dit chaque fois. Participer dans une conférence pareille, c'est quelque chose d'inattendu, mais comme on est né avec le destin, je suis très content des organisateurs de cette conférence des Grands Lacs. Et moi, en tant que petit producteur, je pouvais dire, la conférence était plus concernée de grains. Mais du moins, avec ce que nous faisons sur terrain, j'ai été aussi ciblée par la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui a voulu que je puisse participer pour parler de petits producteurs autour des grains. La conférence m'a permis d'entrer en contact avec des grains par rapport au conseil, comment on peut devenir grand. Parce que si on est en dehors des grains, parfois nous critiquons pour rien. Mais il faut s'approcher. Parfois, si les grands ne comprennent pas, qu'il faudrait aussi être ensemble avec les petits. Parce qu'aucune entreprise ne peut pas grandir sans que ça puisse commencer petit.
Et justement, le défi d'un petit producteur que vous êtes, c'est quoi?
Le petit producteur est habitué de multiples problèmes. Entre autres, le manque de l'information du marché, le manque d'amélioration de nouvelles technologies par rapport à la production, par rapport à la transformation, à la conservation et à la commercialisation, même à la consommation.
La conférence vous a aussi, comme vous avez dit, vous avez approché les grands. Sûrement, vous avez eu des contacts et vous avez eu des promesses de leur secours dans ce que vous faites.
Tant que j'étais dans le panel, j'étais applaudi par le grand. Donc j'ai eu quand même la chance d'être écouté, mais j'ai eu des gens qui avaient même le souci aussi de dire oui, tu as bien parlé et moi je peux contribuer comme appui conseil. J'en ai eu.
Éco d'économie, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.